9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Commence à Viterbe. Viterbe, ça se trouve dans le nord du Latium, à 80 km de nos kilomètres, devrais-je dire, au nord de Rome. Viterbe, le 29 novembre 1268. Il y a là un palais où les papes ont l'habitude de résider. Ça fait 2 ans que la construction de ce palais est terminée. C'est déjà la résidence préférée du souverain pontife. Le souverain pontife en question, c'est Clément IV. Clément IV est un pape français, Guy Fouquet de son vrai nom. Clément IV est très important dans l'histoire médiévale de la papauté, le grand chroniqueur de l'époque, Ptolémée de Luc. Ptolémée de Luc est un évêque, disciple de saint Thomas d'Aquin. Il raconte dans son histoire ecclésiastique combien ce pontificat est décisif. Ça fait 3 ans, à l'époque dont je vous parle, en 1268, ça fait 3 ans que ce pape a revêtu la tiare pontificale. 3 ans pendant lesquels il a résolu pas mal de problèmes. Il faut vous dire que quand il a été élu, il était confronté à 2 énormes problèmes. D'abord, une situation financière épouvantable, désastreuse, situation par ailleurs politique très difficile, très complexe dans une Italie très morcelée, vous savez, qui met en difficulté la papauté, qui oblige le successeur de Saint-Pierre à souvent quitter Rome pour sa propre sécurité, tellement la ville éternelle est devenue remuante. Clément IV trouve des solutions à ces deux problèmes. D'abord, pour ce qui est de la question politique, il soutient Charles Ier d'Anjou dans ses acquisitions en tant que roi de Sicile et roi de Naples. Charles Ier d'Anjou, c'est le dernier frère de Saint-Louis, hein. Charles Ier d'Anjou, ce prince français, dans une lutte ouverte contre le Saint-Empire romain germanique, contre les descendants de Frédéric II, Manfred d'abord, et puis Conrad, et bien Clément IV, en bon français qu'il est, après tout, soutient le prince français, soutient l'Angevin, et il le soutient notamment financièrement, il pousse le mariage de sa fille avec l'héritier du trône de Hongrie. Bref, la papauté a choisi son camp, et ça c'est ce qu'il fallait faire, sans doute. Maintenant, la question financière. Clément IV est à l'origine d'une décision importante qui est entrée dans l'histoire sous le nom de Licet Ecclesiarum, on dirait nous Licet Ecclesiarum. Ce serait long d'évoquer tout ce que cette décision engendre, mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'en période d'assèchement du trésor pontifical, le souverain pontife peut désormais tirer des droits sur toutes les églises et tous les bénéfices d'abbayes du monde chrétien. Vous imaginez, le pape va donc, si vous voulez, percevoir un impôt sur le clergé de toutes les royautés. C'est une étape très importante dans ces luttes qui opposent les papes et les souverains dans toute l'Europe sur justement ce que va devenir le bénéfice de l'église. Clément IV, grâce à cette décision, grâce à ce Licet Ecclesiarum, réussit à restaurer les finances de la papauté. Mais si on retourne à Viterbe, dans ce joli palais qui vient d'être construit en ce 29 novembre 1268, on verra que le pape va mal. Ça fait 3 ans seulement qu'il est pape, mais sa condition physique s'est très affaiblie. La vérité, c'est qu'il va mourir le jour même, à l'âge de 68 ans. Ce pontificat a été majeur, mais il a été très bref. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est la succession de ce pape. Une succession qui s'annonce, elle aussi, très difficile.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il va falloir réunir un conclave. Alors c'est un petit anachronisme parce que l'expression conclave ne fera son apparition en vérité que quelques années plus tard. Le conclave cum clave, c'est ce qui est sous clé. Ça veut dire qu'on installe les cardinaux, le sacré collège, dans un lieu clos. Bon. En 1268, les règles de l'élection pontificale ne sont pas tout à fait encore bien fixées. Ce ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Cette histoire de l'élection pontificale pourrait être... Alors là, on ferait des émissions et des émissions. Hein, dans son dictionnaire amoureux des papes, qui est paru chez Plomb, bien sûr, Bernard Lecomte dit « Dans les premiers temps de l'Église, l'évêque de Rome était élu par le clergé et les chrétiens de la ville. » Après le IVe siècle, quand la papauté fut devenue un enjeu de pouvoir temporel, les grandes familles locales et les empereurs romains s'en mêlèrent, provoquant parfois les pires dérapages, corruption, simonie, violence, etc. En 1059, le pape Nicolas II tenta de mettre fin à ces dérives en décrétant que seuls dorénavant les cardinaux éliraient le chef de l'Église. Même si le collège électoral n'était pas à l'abri des pressions les plus insistantes, c'était déjà un grand progrès. Donc vous avez bien compris que ce sont les cardinaux qui se réunissent. Pas tout à fait comme aujourd'hui, mais déjà, c'est le principe du sacré collège. La décision de Nicolas II a mis fin à un privilège vieux de 300 ans qui était accordé à l'empereur Othon, l'Othon Ier, qui lui avait permis, qui permettait à ses représentants d'assister à l'élection. Vous imaginez l'influence, le lobbying, comme nous dirions nous aujourd'hui, qu'il pouvait faire peser sur les électeurs. C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de pression que le conclave n'avait pas forcément lieu à Rome, parce qu'à Rome, certains avaient un peu trop leurs marques et leurs habitudes. Bref, pour répondre à la vacance du siège pontifical qui fait suite à la mort de notre Clément IV, là en novembre 1268, c'est à Viterbe que les cardinaux se rassemblent, le sacré collège se réunit dans le fameux palais qui vient d'être terminé, une dizaine de jours seulement après la mort du pape Clément. Au sein de ce sacré collège, 20 cardinaux à l'époque. Un cardinal français ne peut venir dans le Latium parce qu'à l'époque il était en croisade, ce qui veut dire qu'il y aura à Viterbe 19 cardinaux. Le doyen du sacré collège, c'est justement un Français. Il s'appelle Eudes de Châteauroux. Il doit présider les débats. C'est lui qui va diriger les scrutins. Il va y avoir différents scrutins. Il faut savoir que le nombre de scrutins n'a pas de limite. Il faut qu'un candidat obtienne les 2/3 des voix. Et on peut d'ailleurs voter pour une personne qui ne se trouverait pas au sein du sacré collège à l'époque. Vous voyez que les règles sont pas tout à fait les mêmes. Pas de limite au nombre de scrutins, ce qui veut dire pas de limite dans le temps. Eh bien, vous allez voir que ce qui est en train de se préparer, c'est pas une longue, c'est pas une très longue, c'est une très, très longue élection. Prélude au prologue du Méphistophélée de Boïto, l'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Riccardo Chailly.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, pour comprendre la durée de cette élection pontificale, il faut entrer maintenant dans la composition du Sacré Collège. Il y a 19 cardinaux qui siègent à Viterbe, je vous l'ai dit. Sur les 19, 12 Italiens, 5 Français, 1 Hongrois et 1 Anglais. Le premier scrutin a lieu 2 semaines après la réunion des cardinaux. On est donc juste avant Noël 1268. Le doyen va faire un discours avant le scrutin. Il exhorte les cardinaux à faire fi de toutes leurs opinions personnelles. Il argue qu'on ne peut pas laisser le trône de Saint-Pierre vacant trop longtemps. Donc il faut aller vite. Voici ce qu'il dit. Qu'ils soient unis dans la concorde, ceux dont la charge est d'élire le pape, afin qu'on n'entende pas entre eux le son d'un marteau ou de la scie, c'est-à-dire de la discorde. Car là où est la paix, là est le Seigneur. Discours qui n'aura aucun effet. Le premier scrutin va révéler les divisions très grandes entre les 19 cardinaux. Il se trouve que Yves Chiron vient de faire paraître aux éditions Perrin un ouvrage qui s'intitule « Les 10 conclaves qui ont marqué l'histoire ». Voilà ce qu'il écrit à propos de celui-ci, du conclave de 1268. Les cardinaux réunis dans le palais épiscopal de Viterbe étaient divisés. Les ambitions personnelles des uns et des autres et la défense de leurs intérêts ou de ceux de leurs familles respectives empêchaient une entente rapide. Ils étaient également en désaccord sur des questions temporelles. Certains étaient favorables à Charles Ier d'Anjou qui voulait rétablir son autorité sur le royaume des deux Siciles et dominer la Toscane. D'autres s'opposaient à une politique trop favorable aux Français. Deux partis se formèrent alors au sein du Sacré Collège, l'un autour du cardinal florentin Ottaviano Ubaldini, l'autre autour du cardinal Matteo Orsini. Un scrutin va avoir lieu, puis deux, et puis trois, alors là ça commence, et puis quatre votes, et puis cinq. Aucun candidat ne parvient évidemment même à approcher les deux tiers des voix. Il y a de telles divisions qu'on va même arrêter de voter pendant plusieurs semaines. Et puis, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, pendant plusieurs mois. Un chroniqueur contemporain écrira que la discorde était maximale entre les cardinaux. Ah oui, ça, aucun moyen de concilier ces prélats. On est désormais à la moitié de l'année 1269. Alors, il y en a un qui meurt, hein, des cardinaux. Donc là, ils ne sont plus que 18. Comme il n'y a plus de pape, on ne va pas en former de nouveau. Hein. À l'extérieur du palais, on commence à s'exaspérer. Ça fait un an que Clément IV est mort. La podesta de la ville prend une décision un petit peu radicale, décidant d'enfermer les cardinaux dans le palais. Ils pourront plus sortir de la grande enceinte. On fait ça pour essayer de les pousser à faire un choix, parce que la chrétienté attend son pape. Il n'y a pas que la région et les états pontificaux et l'Italie. Et... Non, non, c'est toute la chrétienté qui attend. La situation ne fait que s'aggraver, puisque, évidemment, vous vous doutez bien qu'en l'absence d'un pape, les factions ont tendance au sein de cette église à regimber, à reprendre du pouvoir. Bref, les cardinaux sont furieux d'avoir été enfermés. Ils voient ça comme une volonté extérieure d'influencer le scrutin, ce qui, depuis 1059, est expressément interdit, et ils vont décider d'excommunier le collège, la podesta. C'est visiblement la seule décision qu'ils arrivent à prendre collectivement. Ils sont d'accord là-dessus. Donc, en novembre 1269, la podesta est remplacée. Et le podesta, devrais-je dire, hein, d'ailleurs. Et il faut attendre 4 mois avant qu'un autre soit nommé, le 1er mars 1270. En général, une élection pontificale dure quelques semaines. Hein, mais là, vous voyez qu'on est en mars 70. Ça fait un an et demi que ça dure. Et un an et demi que la chrétienté a les yeux rivés sur Viterbe. Il va encore y avoir quelques scrutins, toujours pas d'élus, et désormais ce sont les habitants eux-mêmes de la ville qui sont exaspérés en mai 1270. Avec la complicité des autorités, vous l'aurez compris, certains habitants réussissent à escalader le palais, à démonter une partie de la toiture au-dessus de la chambre des cardinaux, et ce qui veut dire que les cardinaux maintenant vont se retrouver à ciel ouvert. Quand il pleut, eh bien ils ont la pluie. Ils protestent bien sûr, quel scandale de traiter ainsi les princes de l'Église. Mais en attendant, ils n'ont plus qu'à observer le ciel étoilé ou les nuages lorsqu'ils sont gros d'une pluie menaçante. Les cardinaux vont déplacer leur lit dans la grande aula, c'est-à-dire dans la grande galerie où ils se réunissent pour les scrutins. Certains protestent, d'autres se plaignent auprès du pouvoir local. Et après avoir été enfermés, voilà qu'on les prive de leur toit maintenant. Les 18 cardinaux vont pondre, si vous me passez l'expression, une protestation solennelle. Tout le monde va signer. Là, ils sont d'accord pour ça. Protestation lue dans la cathédrale de Viterbe en juin 1270. Ils s'indignent de leurs conditions. Et un mot va apparaître dans la tradition chrétienne. Ils dénoncent cette rétention au sein de pièces fermées à clé, cum clave. Voilà l'origine du mot conclave, vous voyez. Les cardinaux demandent que 3 de leurs collègues puissent sortir du palais pour se faire soigner parce qu'ils sont vraiment trop âgés, fatigués et malades. Et il faudrait aussi qu'on répare le toit, disent-ils. Enfin, qu'ils aient accès à un endroit destiné aux besoins naturels digne de ce nom. Parce que là, ça devient vraiment plus possible. Ils concluent leur lettre par une menace. Si ces 3 conditions ne sont pas réalisées, ce n'est pas une simple excommunication du podesta qui va se décider, mais un interdit ecclésiastique sur l'ensemble de la ville de Viterbe. Et là, toutes les autorités commencent à trembler, parce que l'excommunication, c'est pas rien quand même. Donc, on accepte les 3 conditions. Nouveau départ, si je puis dire, de ce qu'on peut maintenant désormais appeler un conclave. Ça fait 2 ans que le Sacré Collège est réuni. On est en novembre 1270. Et voilà qu'un nouveau cardinal vient à mourir. Peut-être des suites des mauvais traitements qui ont été infligés au Sacré Collège pendant toute cette période. Toujours est-il qu'ils ne sont plus que 17. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir encore longtemps ? l'orchestre de la Scala sous la direction de Chailly qui interprétait un autre prélude, celui des Médicis de Léon Cavallo.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ça fait 2 ans et demi que les cardinaux sont réunis donc pour élire le prochain pape. Alors il y a quand même des gens qui peuvent leur rendre visite, même s'ils sont sous clé. En mars 1271, c'est carrément le roi de France, Philippe III, qui est reçu en audience. Et inutile de vous donner la substance, la teneur de son propos. Bien sûr, il va presser les cardinaux de se mettre d'accord. Ensuite, ils reçoivent la visite de Charles Ier, puis de Baudouin II, l'ancien empereur latin de Constantinople. Et en août 1271, il y a une visite qui va un petit peu changer le cours du conclave. Bonaventure de Bagnoregio, qui est ministre général des Franciscains, se présente. Alors, on l'a oublié aujourd'hui, mais à l'époque, il était considéré comme un très grand théologien, un peu au niveau de saint Thomas d'Aquin, si vous voulez. On l'appelle saint Bonaventure dans la tradition chrétienne. Bonaventure se rend donc à Viterbe, il est reçu en audience par les cardinaux, il connaît les tensions qui traversent le Sacré Collège et l'incapacité des 17 à se mettre d'accord entre eux. Et les chroniqueurs diffèrent sur ce que Bonaventure aurait dit aux cardinaux pendant la fameuse audience. Certains prétendent qu'il aurait menacé les cardinaux d'obliger les autorités de la ville à ne plus leur donner que du pain et de l'eau pour les presser dans leur choix. D'autres, à l'inverse, disent qu'il a été très clément, qu'il les a au contraire très bien traités. Il est plus probable que le théologien ait pressé, pour ne pas dire pressuré, les cardinaux. Il a surtout préconisé la méthode suivante qu'on appelle per compromissi viam, par la voie du compromis. Les cardinaux doivent désigner 3 personnes parmi les 2 parties qui s'affrontent et ces 6 cardinaux vont entre eux décider d'un nom en se donnant un temps maximum de 2 jours. Je cite de nouveau Yves Chiron. 3 solutions étaient alors possibles. Les 6 cardinaux s'entendaient sur un d'entre eux comme pape, ou désignaient un autre membre du Sacré Collège, ou bien encore, ils faisaient leur choix extra-collégium, c'est-à-dire qu'ils élisaient pape, un clerc qui n'appartenait pas au Sacré Collège. À la suite de différentes discussions, c'est cette dernière solution qui a été retenue. Le 1er septembre 1271, après 3 ans de conclave, Tebaldo Visconti, simple archidiacre, fut désigné à l'unanimité par les 6 prélats, décision qui fut ensuite validée par leurs confrères au cours d'un vote. Voilà comment s'achève le plus long conclave de l'histoire. Le travail du pape qui vient d'être élu va consister maintenant à rendre cette situation de blocage impossible pour que une telle situation, et disons-le, un tel ridicule, ne se reproduise plus.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, avant toute chose, il fallait que Tebaldo Visconti reçoive les différents sacrements, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'était même pas prêtre, hein, il était simplement archidiacre. Donc d'abord, on est allé le chercher en Terre Sainte, où il se trouvait, il était là pour soutenir la 8e croisade à l'époque. On lui annonce la nouvelle de son élection, vous imaginez, complètement sidéré Tebaldo, qui demande à prier une dernière fois au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il s'attendait à tout, sauf à être pape. Il arrive à Viterbe en février 1272, il accepte la charge qu'on vient de lui confier par élection et dans les conditions que vous savez maintenant. Et d'abord, donc, il lui faut être ordonné prêtre, puis consacré évêque, et finalement, il va être couronné pape. À l'époque, on parle bien de couronnement. Tebaldo Visconti prend le nom de Grégoire X. Le nouveau pape apprend, bien sûr, les conditions de son élection. 3 ans de palabres interminables. Et évidemment, il se dit que la première chose à faire, c'est d'organiser les choses pour que ça ne se reproduise plus. Donc, il va prendre les décisions nécessaires. 2 ans plus tard, en mai 1274, 200 évêques et 800 prélats se rassemblent à Rome pour évoquer cette question. C'est une constitution qui va être écrite et qui s'ajoute aux anciens décrets, notamment celui de 1059 que vous connaissez maintenant. Voici ce que dit le nouveau texte. Nous n'avons nullement l'intention de supprimer quoi que ce soit, mais au contraire, d'y ajouter par la présente constitution ce que l'expérience nous a appris qu'il manquait. Qu'en termes diplomatiques, ces choses-là sont dites. Voici quelques extraits importants du texte et qui vont régir ensuite l'élection des papes. Alors là, ça va régir tous les conclaves jusqu'à nos jours. Les cardinaux sont réunis dans un lieu unique et tous habiteront ensemble, astreints dans une même salle, sans la séparation d'une cloison ou d'un rideau. Cette salle sera fermée de toutes parts, en sorte que personne ne puisse y entrer ou en sortir. « Unum conclave », dit le texte. Un conclave, au sens propre, cette fois. À partir de Grégoire X, donc, on peut évoquer cette expression de conclave qui va se généraliser, bien entendu. Il est précisé plus loin qu'il y aura quand même une fenêtre par laquelle on fera passer la nourriture et, pour inciter les cardinaux à ne pas faire traîner les scrutins, on fera diminuer progressivement chaque jour la quantité de la nourriture transmise. Et si au bout de 3 jours, le Sacré Collège n'a toujours pas trouvé un homme qui réunirait les 2/3 des scrutins, on ne servira plus qu'un seul plat le midi et un seul plat le soir. Et si après 5 jours, les cardinaux ne se sont pas mis d'accord, ils ne recevront que du pain, du vin, de l'eau, jusqu'à ce que se fasse l'élection. Et pour pousser encore plus loin la persuasion, le texte précise que les cardinaux ne toucheront aucun revenu tant que durera le conclave. Je ne sais pas si c'est cette dernière décision qui a emporté la mise. Toujours est-il que depuis, les conclaves ont atteint des durées, sauf quelques exceptions d'ailleurs, mais pour la plupart assez raisonnables.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen, à qui les arcanes de l'Église ne posent aucun problème, il connaît tout ça par cœur. Et voici celui qui connaît la musique, si je puis dire, au propre comme au figuré, c'est Christian Morin.
Et qui a abondamment servi la messe de mon oncle Robert,
parce qu'il
était prêtre en Charente il y a quelques années. Dites-moi, je ne sais pas si vous qui ne fumez pas...
On vous voit bien en enfant de cœur, j'avoue.
Oui, j'adorais, c'est terrible de dire ça, j'adorais les enterrements parce qu'à l'époque on portait la soutane noire, comme les adultes, avec le surplis blanc, et je me prenais pour un adulte, bien sûr, de 8 ou 9 ans. Dites-moi, vous avez une fumée blanche qui s'échappe de votre veste, vous ne fumez pas, attention, vous devriez appeler un rameneur.
Oui. Donc,
c'est l'élection d'un nouveau pape,
c'est
peut-être.
Ça.
Bien sûr. Cet après-midi, on change carrément de sujet. Vous allez nous parler d'un médecin, journaliste et écrivain originaire de Kiev, Bulgakov.
Ah oui, non, mais Bulgakov, là, on entre dans...
Personnage.
On a parlé de grands auteurs la semaine dernière. Là, vous allez voir un grand auteur russe.
14h, Franck Ferrand, bien sûr, et le retour... Demain matin, avec d'autres thèmes à la clé, à 8h-5 avec David Abiker et à 9h, comme d'habitude, le plaisir de vous croiser. Bonne journée, Franck.
Bonne journée à vous.